Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, on parle éducation, comme chaque vendredi. Et un sujet qui va bien au-delà de l'école, comment transmettre à un enfant le plaisir de la lecture. Il vous dit qu'il déteste lire, il n'est pas le seul, rassurez-vous, mais alors comment lui faire découvrir ce plaisir d'entrer dans des histoires, dans des univers, de construire sa personnalité grâce, non pas à des films ou à des images, mais grâce à ce truc fou qui s'appelle l'assemblage de mots, qui forme lui-même le langage et donc la pensée chez tous les êtres humains sur Terre. La lecture ne sert pas seulement à réussir à l'école, elle permet aussi de grandir. Alors comment apprendre à tourner des pages, y compris électroniques, dans un monde dominé par l'image? Appelez-nous les voisins si vous êtes parents, si vous êtes enseignants ou tout simplement grand frère. Posez-nous vos questions, mais aussi appelez-nous pour nous raconter comment vous-même vous avez poussé un jour, peut-être, la porte étroite vers la lumière, lire, imaginer, comprendre. Je vous donne notre numéro de téléphone comme tous les jours du lundi au vendredi, 33 1 84 22 71 71 et bien sûr tous vos messages sur les réseaux sociaux. Je vous présente aussi nos invités dans le studio. Christine et Nico, qui est psychopédagogue depuis 25 ans, bonjour.
Bonjour.
Vous publiez « J'aime pas lire », la méthode pour accompagner les enfants fâchés avec les mots. Également avec nous, Bénédicte Chauqui-Milsan, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur agrégé de lettres modernes, vous enseignez en lycée. Mmh. Vous êtes aussi docteur en littérature française et vous publiez « La lecture, ça ne sert à rien ». Donc toutes les deux, vous avez des titres un peu provocants, volontairement j'imagine, négatifs sur la lecture, alors que vous êtes évidemment des passionnés de lecture. Et votre livre, c'est aussi une enquête sur les usages de la littérature au lycée et partout ailleurs. Et votre livre a d'ailleurs reçu le prix Le Monde de la Recherche Universitaire. Vous nous direz un peu comment vous faites aimer passionnément les histoires et la littérature à vos élèves de lycée, qui ne sont pas tous programmés pour aimer d'ailleurs.
Hein.
Et c'est bien ça la belle aventure.
Bien sûr, peut-être. C'est ça l'aventure.
Nous serons également en ligne avec à Abidjan avec Adja Mariam Maré Sonogo, qui est fondatrice de Bulle Magazine. C'est un magazine mensuel ivoirien qui va démarrer, qui est dédié aux 8-11 ans et qui propose de promouvoir la culture africaine. Et elle a reçu d'ailleurs le prix Orange de l'entrepreneur social en Afrique et au Moyen-Orient. Et puis en fin d'émission, on démarrera une série de reportages en France à 2 mois de l'élection présidentielle, paroles d'enfants et d'adolescents sur des sujets qui les concernent, au micro d'Alice Milo. Aujourd'hui, ils nous livreront leur regard sur... Devinez quoi ? La police. On revient à la lecture avec bien sûr pas mal de réactions sur notre page Facebook. Fabrice à Kinshasa écrit ceci. Personnellement, toute mon enfance, j'ai été influencée par la lecture. Elle m'a permis d'acquérir les compétences nécessaires pour toute ma vie professionnelle. Si j'écris mieux, si je parle mieux aujourd'hui, c'est grâce à la lecture. Saliou à Dakar. Moi, personnellement, la poésie m'a toujours donné envie de me plonger dans un univers imaginaire, de rêver, de m'éloigner de la vie réelle, du stress et de ses autres problèmes. Et puis, il y a aussi quand même beaucoup d'inquiétudes qui sont formulées par nos auditeurs. Habib Anjamena au Tchad nous dit « On constate chez moi une baisse du niveau scolaire ». Qui est, je pense, dû au désintéressement des enfants de la lecture. Comme ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent, ils y accordent peu d'importance et préfèrent se tourner vers les images qui sont évidemment faciles à comprendre. Ou encore Idrissa qui est à Saint-Louis au Sénégal. Les jeunes ont un vocabulaire très pauvre, nous dit Idrissa. Tout cela est dû à un désamour total de la lecture. Et puis il y a le message d'un auditeur, Lénaïque, qui est à Libreville au Gabon, qui nous dit « Mais la lecture, c'est une question d'habitude. Si les parents ont l'habitude de lire à la maison, les enfants auront les mêmes réflexes, comme un père passionné de foot transmet cette passion à son fils. Les enfants trouvent la lecture pénible parce qu'ils la voient comme une contrainte, se sentent obligés de le faire à la demande de leurs parents ou de leurs professeurs. » Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord, mesdames, avec ce que les messages que je viens de lire Christine et Nico.
Écoutez, je pense qu'il est pour rebondir sur la transmission. On est vraiment là dans une affaire de transmission. Mais il y a les bons moyens de transmettre et les moyens, on va dire, inefficaces ou les fausses bonnes pratiques pour transmettre. C'est sûr, c'est sans doute beaucoup plus facile de transmettre le goût du foot que le goût de la lecture. Moi, je connais tellement de familles qui me disent on ne comprend pas, ils nous voient lire, on a des bibliothèques entières à la maison. Et pourtant, voilà, il y en a un sur la fratrie qui échappe à ça. Donc, il faut trouver d'autres moyens. c'est bien ça dont il va être question aujourd'hui.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il faut réintroduire le plaisir de lire. C'est un verbe qui se conjugue très difficilement à l'impératif, hein, comme l'a très bien dit Daniel Pénac. Et je crois qu'il faut beaucoup procéder par incitation plus que par injonction.
Il n'y a pas de moment particulier pour lire. Le plaisir, qu'il soit égoïste ou solitaire, chacun peut le nourrir et le faire vivre partout et en toutes circonstances.
Pourquoi c'est énorme et fondamental de transmettre le plaisir de la lecture? Parce que tant qu'un petit ne ressent pas de plaisir devant un bouquin, d'émotion, on court le risque qui ne pérennise pas l'acquis scolaire.
Je me souviens très bien que quand j'apprenais à lire à voix basse, la première des choses que je faisais, je courais chez moi avec ce que j'avais lu à l'école, je mettais mes poupées en rang et je lisais à voix haute aux poupées.
Le plaisir de la lecture, vous ne pouvez pas voter une loi au Parlement. Le plaisir, c'est quelque chose qui se transmet d'individu à individu et très très bien entre les anciens et les petits.
Maintenant, malheureusement, on a tendance parfois à les dégoûter. D'abord parce qu'il y a tellement d'injonctions pour lire, on en oublie le plaisir. Moi, je veux absolument, absolument, c'est peut-être ça l'essentiel d'ailleurs, lire pour les enfants, c'est un vrai plaisir et ça doit l'être aussi à l'école.
Voilà, dans ces propos, vous avez reconnu, il y a des anonymes et puis il y a aussi les écrivains Alexandre Jardin, Daniel Pénac. Oui, on ne peut pas voter de loi au Parlement pour dire maintenant lisez.
Non, ça ne se vaccine pas.
Par contre, on peut donner l'exemple, on peut montrer quelle joie soi-même en tant que parent, en tant que professeur, on éprouve à lire des livres, à être accompagné et habité par des livres qui nous marquent.
Oui, mais par définition, le plaisir de la lecture, c'est aussi une joie intérieure et une aventure intérieure.
C'est vrai, alors c'est pas mais simple. Qu'on peut partager.
Justement, on accueille un voisin que nous avons sollicité. Bonjour Amidouane.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes à Dakar, vous écrivez pour l'Afrique des idées et le monde Afrique et vous avez entendu les témoignages, les points de vue des auditeurs. Vous, précisément, vous n'avez pas découvert la lecture à la maison?
Non, pas du tout.
Racontez-nous votre rencontre avec la lecture, Amidouane.
Oui, en fait, moi je suis né dans une maison où il n'y avait pas de livres. Moi j'avais d'autres livres de Kim Il-sung, mais bon, quand on a 8-9 ans, c'est pas très drôle Kim Il-sung. C'était aussi dans un quartier où on ne lisait pas. Donc, à un certain moment, un de mes cousins m'a...
Dans la banlieue de Dakar, hein?
Oui, dans la banlieue de Dakar, ouais. Donc, un de mes cousins m'a inscrit à une bibliothèque qui se trouvait dans un hôpital psychiatrique. C'était assez, assez cocasse. Et c'est la première fois que je mettais les pieds dans une bibliothèque. Et c'était génial, ça a changé ma vie. Donc, concrètement, voilà, j'ai rencontré la lecture de façon très improbable, de façon à la limite hasardeuse, mais pas chez moi. Et ça, oui, ça a changé ma vie.
À quel âge, avec quel livre?
C'était vers 9-10 ans, et je lisais... c'était Victor Hugo, je crois.
Oui.
Le premier livre, c'était « Vie et enseignement de Tchernoboka » de Amadou Ampateba.
Oui.
Oui, voilà. C'était le premier livre que j'ai lu et j'ai jamais arrêté. Et donc j'entends les témoignages et ça me fait sourire un peu. La lecture ne s'incite pas et ça me fait sourire parce que j'ai deux petits frères à la maison qui n'aiment pas lire. J'ai tout fait, ils n'aiment pas lire. J'ai procédé par injonction, par impératif. J'ai acheté des livres, finalement j'essaie de faire de la pédagogie, mais ces deux garçons n'aiment pas lire.
Ah oui, donc vous êtes impatient d'avoir des conseils, là, j'imagine, de Christine et Nico et de Bénédicte Chauqui-Milsan. Mais est-ce que, s'il n'y avait pas eu cette bibliothèque improbable dans un hôpital psychiatrique, est-ce que vous auriez découvert la littérature? Est-ce que vous pensez que vous étiez programmé pour découvrir la littérature et le plaisir de lire?
Je ne sais pas si on peut être programmé pour découvrir la littérature ou pour lire. C'est vraiment une question de rencontre, c'est parfois une question d'opportunité, etc. Donc voilà, pour moi, il n'y a pas d'individu programmé pour lire ou pas. Peut-être que j'aurais pas été dans cette bibliothèque-là, j'aurais pas aimé la lecture, j'aurais pas lu, parce que déjà dans mon école, il n'y avait pas de bibliothèque. Donc voilà, il n'y a pas de programmation pour moi, c'est une question de rencontre, c'est une question de hasard, c'est une question de... C'est assez improbable, quoi.
Est-ce que vous pourriez décrire à ceux qui ne lisent pas ce que représente la lecture comme aventure intérieure, ou c'est impossible?
J'aime bien cette phrase de Daniel Salnave qui dit « Lire la littérature, c'est accepter le don des morts. » Donc c'est transmettre quelque chose, c'est ressentir des émotions, c'est visiter des pays dans lesquels on a jamais été. C'est une forme d'aventure intérieure et finalement c'est assez addictif. Son, on lit parce qu'on aime ça, on lit parce que c'est une nourriture à la limite quotidienne. On lit comme on mange, on lit comme on boit et on lit comme on rencontre des gens. Donc moi, je le répète, la littérature a changé ma vie. Et j'ai envie de dire aux autres, allez explorer cette voie-là. J'ai envie de dire aux jeunes, aux enfants, explorez cette voie-là, ça va aussi changer votre vie.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que parmi vos amis, il y a le père Goriot de Balzac, tout simplement.
Ah, tout à fait.
Hein, c'est ça.
Tout à fait.
Vous auriez pu le rencontrer sur Facebook, finalement.
Oui, voilà.
Merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous, Amidou Anne, et merci pour nous faire partager ces frissons aussi. Je voudrais qu'on donne la parole à une auditrice qui nous appelle au 33 1 84 22 71 71. Fatoumata est à Bamako, au Mali. Bonjour Fatoumata.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous les voisins.
Fatoumata, vous souhaitez tout de même souligner une difficulté supplémentaire pour la plupart de nos auditeurs qui nous écoutent sur le continent subsaharien, donc en Afrique, par rapport au problème de la lecture, la façon dont on en parle dans un pays comme en France où la plupart des jeunes sont de langue maternelle française, ce qui n'est pas le cas pour vous, Fatoumata.
Oui. Le cas ici au Mali, c'est ce qui fait un peu la difficulté, c'est la langue française. Dans les écoles, dans les maisons, partout, c'est le bambara. Tu viens ici, par exemple, un étranger qui vient et tu t'adresses en français, on te considère je ne sais de quoi, on te dit que tu es là, je ne sais pas, français ou je sais quoi. Mais c'est un peu difficile. Quand l'enfant est là, il est censé apprendre, comprendre des choses. Et on dit que l'enseignement, c'est le français. Et c'est tout à fait difficile pour lui de comprendre. Je pense que c'est un grand problème. Et même les enseignants doivent faire face. Parce que là, sans comprendre ce qu'on dit, ce qu'on dit, c'est pas facile de comprendre.
Ouais. Donc il y a le problème de la compréhension de la langue française et le problème aussi qu'il n'y a pas, il y a peu d'histoires publiées, éditées en bambara pour les enfants.
Oui, c'est pour ça. Parce que moi, les bibliothèques, bon, il y a une bibliothèque nationale et il y a le Centre culturel français. J'ai eu à visiter ces deux. Bon, moi, personnellement, je ne suis pas tombée sur des livres en bambara. Je ne sais pas si ça existe ou pas, mais bon.
Il en existe, mais je veux dire, vous posez bien le problème des langues locales qui sont évidemment très peu éditées et encore moins pour les jeunes. Merci beaucoup de nous appeler, Fatoumata de Bamako. Vous pouvez bien sûr continuer de nous appeler au 33 1 84 22 71 71. Christine et Nico, Bénédicte Chocky-Milsin, si on revient au problème en France, quel est à l'heure actuelle l'état des lieux sur les capacités, sur les pratiques, sur les plaisirs de lecture des enfants et des adolescents ordinaires, Christine Nico?
Oui, alors en France ou ailleurs, hein, dans le monde occidental, de toute façon, c'est partout les mêmes plaintes. Il y a une bataille à mener, nous le savons tous les transmetteurs et les passeurs de mots, nous savons qu'il y a une bataille à mener contre, en effet, cette pensée de l'utilitaire, contre l'absence, tout ce qui est fait pour ménager l'effort de l'enfant. Il lui faut de l'immédiat, il lui faut du facile, il lui faut tout ce qui, effectivement, favorise l'accès à la connaissance, mais qui ne demande pas d'effort, est promu. Bon, donc, on a une bataille à mener. Mais moi, je pense vraiment, par expérience, par mon travail, qu'en réalité, il y a une attente. Alors, je ne parlerai pas comme l'auditeur...
Amidouane, qu'on a entendu.
De programmation. Je dirais malgré tout que l'expérience...
C'était une question que je lui posais,
absolument,
d'ailleurs.
Absolument. D'autant plus que, voilà, c'est difficile de répondre à ça. Mais ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a une capacité de changement. Il y a une capacité, à un moment donné, bien menée, que l'enfant émerge, en effet, au désir de lire. Et ce qui va... Là, je vais proposer, j'espère, vraiment des choses utiles, parce que la première chose à faire, c'est d'inscrire l'enfant dans le monde du langage dès tout petit. Voilà. Et de le réconcilier, enfin de le réconcilier, de créer une relation de familiarité pour le mettre en désir de mots de façon permanente, j'ai envie de dire, comme un mode de vie, voyez. Voilà. Mais en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une attente. Et cette attente, à nous de l'éveiller. Mais il y en a une. Sinon, on n'assisterait pas à leur transformation. Je pense par exemple au film, si vous savez peut-être de l'esquive d'une dizaine d'années. Qu'est-ce qui fait qu'un jeune de ces milieu difficile, émerge au plaisir des mots de Marivaux.
Bénédicte Chauqui-Milsain, oui. Vous êtes professeur de lycée, oui. Donc vous avez dans votre classe, devant vous, une trentaine d'élèves, une génération de zappeurs.
Oui, vous avez raison, mais en même temps, je pense qu'il y a effectivement une attente. Il y a tous les jours des miracles aussi qui peuvent se produire, excusez-moi. Et je pense, il y a une enquête il y a quelques années de Christian Baudelot et de son équipe qui avait, le titre de cette enquête c'était « Et pourtant ils lisent ». Il y a quand même de très bons lecteurs, des enfants qui sont complètement happés par des séries, alors qu'on peut regarder avec dédain, mais c'est pourtant de la lecture. Et je pense, comme vous le disiez très bien, qu'il y a un travail d'éveil à faire et à poursuivre.
Alors oui, ce que je voudrais dire, cette attente, on peut lui donner une explication, on peut mettre des mots sur cette attente. Je pense que il y a par instinct un désir de donner sa mesure à la part humaine. Vous disiez tout à l'heure le langage, la pensée, c'est quand même ce qui nous définit, et que on peut l'oublier, mais c'est un oubli, et que dès qu'effectivement il y a comme une petite pique, un petit aiguillon, voyez, sur cette part qui est en nous et vraiment en chacun, à ce moment-là, il y a une possibilité de transformation. Effectivement, se sentir relié à sa pensée et à son monde intérieur,
oui,
à son intériorité.
Ça. Vous dites, les mots mettent de l'ordre dans notre chaos intérieur.
Hein. Déjà. Ils mettent, et surtout, ils animent.
En plus, pour les adolescents, il y a beaucoup de chaos, par
définition. Voilà, il y a beaucoup de chaos. Et ça, ils en souffrent. Hein. Ils en souffrent. Et c'est mettre des mots, en effet, sur notre chaos, c'est l'organiser. Et là, il y a le récit, par définition, depuis qu'ils sont petits, ils entendent des récits. Et un récit, ça met justement de l'ordre, ça organise, vous voyez, par l'action, par une histoire, par des épisodes qui se suivent, par un futur vers lequel... Il y a quelque chose qui s'organise. Alors, ce n'est pas conscient, mais c'est ce qui s'imprime. Et c'est ce qui est donc ressenti. Moi, je parle beaucoup d'éprouver. Voilà. À partir du moment où on éprouve ça, même si on ne sait pas mettre des mots, s'il passe par l'épreuve du ressenti, c'est gagné.
Bénédicte.
Oui, je vous rejoins tout à fait, Christine. Et l'anthropologue Michel Petit a beaucoup insisté aussi sur ce point dans son très bel ouvrage qui s'appelle « Éloge de la lecture », hein, la littérature qui nous permet de mettre des mots sur ce qui est mystérieux, ce qui est indicible, sur toutes nos expériences, pas forcément faciles. Et ça, c'est un des grands plaisirs de la lecture, hein, de trouver ces mots-là. Et je crois aussi que rien n'est jamais perdu. Moi, j'assiste tous les jours à des situations dans lesquelles des élèves qui n'aimaient pas lire, tout à coup, vont trouver un titre qui, à ce moment-là de leur vie, leur correspond. C'est pas forcément un titre qui leur ressemble, qui va parler de leur quotidien.
Vous pensez à un élève en particulier?
Oui, je pense à cet élève qui avait été subjugué par l'amant de Marguerite Duras et qui m'avait dit qu'il était vraiment subjugué.
C'est pourtant pas, c'est pas une littérature où il se passe énormément de choses, hein, pour un adolescent.
Voilà, mais c'était un bouleversement. Il m'a dit, c'est une sublime façon d'écrire qu'on n'a jamais vue. Et je me souviens très bien de ce témoignage parce que cet élève lisait peu, qu'il était discret, que ce n'était pas une classe de littéraire. Et voilà, et je pense qu'il faut s'accrocher à ces témoignages.
Oui, et des témoignages comme ça, c'est vrai qu'on en a beaucoup. On en parlait tout à l'heure, mais on va en reparler encore. Et moi, ce qui me touche profondément, c'est que c'est comme s'il y avait en nous une capacité presque instinctive à être sensible à la belle chose. Alors déjà, effectivement, la littérature, puisqu'on parle de littérature, on ne parle pas même de lire un essai, peut-être pour l'instant c'est vraiment centré sur plaisir de la lecture, c'est-à-dire plaisir littéraire. Qu'est-ce qui fait qu'effectivement on peut être sensible, tout d'un coup, saisi d'émotion par la belle forme?
C'est complètement étonnant. Et ça, étonnant. Nous sommes tous programmés en tant qu'être humain.
Alors,
pour
il y a
ressentir
donc,
quelque chose devant le beau.
Une dimension de cet ordre-là. Voyez, et donc, en effet, je pense qu'à la fois, elle vient satisfaire un besoin, parce qu'entouré de laideur, ça on sait, entouré de quotidien, même il n'est pas forcément laid, mais il est quotidien, et envie d'aller ailleurs, au-delà de quelque chose.
Oui, et je vous rejoins tout à fait parce que les livres qui vont déclencher de tels événements de lecture, ce ne sont pas forcément des livres qui racontent le quotidien de l'enfant ou de l'adolescent. Ça peut être Manon Lescaut, ça peut être Tristan et Iseut, ça peut être, je pense récemment, à Roméo et Juliette.
Alors, vous restez avec nous, Christine et Nico, Bénédicte Chauqui-Milsain. Évidemment, on poursuit cette discussion. Il faut que vous nous disiez maintenant comment faire quand on est parent, quand on est enseignant, très clairement, très concrètement, pour que l'enfant ou l'adolescent pousse et la clé pour la mettre dans la serrure et pousser la porte vers cette découverte intérieure qu'est la lecture. Vous nous appelez au 33 84 22 71 71.
Écho d'ici.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez chez 7 milliards de voisins sur RFI tous les jours du lundi au vendredi. Et vendredi, comme chaque vendredi, en fait, on parle d'éducation. Et aujourd'hui, comment donner le goût de la lecture aux enfants et aux adolescents? Je pourrais dire comment transmettre, mais si on n'a rien à transmettre, si soi-même on n'a pas découvert la lecture, parce qu'on n'a pas eu cette chance-là, rien n'est perdu, c'est ce que vous nous expliquez, Christine et Nico et Bénédicte Chauqui-Milsan. C'est pas parce qu'il n'y a pas de livre à la maison, et on l'a entendu avec le témoignage de Hamidouane, qu'on n'a aucune chance de découvrir la lecture, pas du tout. Donc tout est possible, vous nous appelez avec vos témoignages et vos questions à nos invités spécialistes du sujet au 33 1 84 22 71 71. Christine et Nico, vous êtes psychopédagogues depuis 25 ans, vous publiez « J'aime pas lire », la méthode pour accompagner les enfants fâchés avec les mots, et vous recevez évidemment beaucoup de parents qui eux-mêmes ne sont pas lecteurs d'ailleurs.
Ils ne sont pas lecteurs, mais ils savent que c'est essentiel pour leur enfant.
Voilà, c'est ça.
On est bien là.
Ils ont compris l'intérêt, voilà, mais c'est pas pour autant que le soir ils lisent des livres.
Non, quitte à le regretter, à être les premiers à le regretter. Je connais beaucoup d'adultes qui veulent même rattraper le temps perdu pendant l'adolescence et la jeune adulte à ne pas lire, et qui là sont en train de boulimique souvent de rattraper ce temps.
Il faut le dire, on peut découvrir la lecture à n'importe quel âge.
C'est l'aventure.
Il y a des adultes à 30 ans, 40 ans qui se mettent à lire, qui n'ont jamais lu avant.
Oui, comme disait l'auditeur tout à l'heure, c'était peut-être le hasard si je n'étais pas allée dans cette bibliothèque, etc. Je reste sur cette idée d'une attente et je reste sur l'idée effectivement d'un instinct où on sent très bien qu'on est fait pour s'étendre, qu'on est fait pour sortir de nos limites intérieures, et que dès qu'effectivement il y a une satisfaction à ce niveau-là, par instinct, j'ai envie de dire par instinct, parce qu'on est un être humain, à ce moment-là, on adhère.
Bénédicte Chauqui-Milsan, vous êtes professeur agrégé de lettres modernes en lycée, et vous publiez « La lecture, ça sert à rien, usage de la littérature au lycée et partout ailleurs ». On va laisser la parole à Adja Mariam Maré Sonogo, qui est en ligne avec nous. Bonjour.
Bonjour madame.
Vous êtes à Abidjan et vous êtes en train de créer un magazine mensuel ivoirien dédié aux 8-11 ans qui propose de promouvoir la culture africaine. Ce magazine s'appelle Bulle Magazine, hein, c'est bien cela ?
C'est bien ça.
Expliquez-nous ce qu'on va trouver dans ce magazine. Est-ce qu'il est d'ores et déjà, ça y est, commercialisé ou pas tout à fait là encore ?
Non, pas tout à fait. Nous sommes en train de réaliser le numéro 0. Mmh. Et bien avant cela, on a chercher à entrer en contact avec une maison d'édition qui a déjà de l'expérience dans le domaine pour faire une sorte d'immersion, histoire de valider le concept et d'être plus à l'aise lorsqu'on va le lancer.
Qu'est-ce qu'on va trouver dans ce magazine alors ?
Exactement. Qu'est-ce qu'on va trouver dans ce magazine de la culture africaine essentiellement ? Nous avons prévu 5 rubriques. La première parlera des rois et des reines d'avant, d'Afrique, qui sont très peu connus. L'idée est de permettre aux enfants de découvrir un peu ces personnes-là qui ont fait notre culture, qui se sont battues et qui ne vivaient pas dans les arbres. La seconde rubrique, c'est une rubrique qui va parler des héros contemporains africains. L'idée est de montrer qu'il y a aussi des cerveaux en Afrique.
Oui.
Et que ce soit des artistes, des chercheurs ou autres, mais des personnes qui ont brillé et qui continuent même de briller un peu partout dans le monde. Donc, c'est des personnes qu'on va présenter en rapport, bien sûr, avec un thème. On choisit un thème dans le mois, on choisit un pays dans le mois et on tourne autour de cela. Si on choisit, par exemple, un roi pour la première rubrique ghanéen, idéalement, on choisira un grand homme du Ghana, ainsi de suite. Donc, par mois, on choisira un pays africain qu'on mettra à l'honneur. Et nous avons d'autres rubriques, comme une rubrique culinaire pour découvrir un peu la nourriture africaine, des jeux et plein d'autres choses.
Donc la porte d'entrée, ce sont des textes courts, hein, forcément, puisque c'est un magazine, et surtout,
oui,
c'est ça, la culture africaine. Donc on commence avec un processus d'identification pour ensuite peut-être aller au-delà.
C'est ça. C'est clair que notre documentation est assez lourde. Elle est plutôt pour des adultes. Donc, le challenge ici, c'est de rendre ce texte digeste pour les enfants. Bien entendu, avec des illustrations pour titiller un peu leur imagination. Mais l'idée, c'est ça, de leur faire découvrir ce qu'on a comme culture, notre patrimoine. Et leur donne envie de lire aussi.
Ouais, alors évidemment,
et d'apprendre des pays autour d'eux.
C'est un concept qui est très séduisant, surtout pour les parents, hein, qui ont bien conscience tout de même qu'il faut transmettre ce patrimoine culturel du continent à leurs enfants. D'autant plus qu'il n'est pas forcément très présent dans les programmes scolaires en Afrique francophone. Vous avez reçu le prix Orange de l'entrepreneur social en Afrique et au Moyen-Orient dans la catégorie culture. Hein, c'est bien cela, Adja Mariam Maré Sonogo.
c'est bien cela.
Et ce produit-là, ce magazine, Bulle Magazine, ça va tout de même être un produit pas facile d'accès financièrement.
Si, quand même, parce que nous avons décidé de produire deux supports, le papier et la version numérique. Mmh. Et le papier, on a quand même mis un prix assez abordable. Il est en moyenne un peu en dessous des prix des magazines qu'on trouve sur le marché actuellement.
Ouais.
Donc, je pense qu'on a plus ou moins trouvé la bonne équation pour pouvoir toucher des personnes localement qui n'ont pas forcément de support numérique.
Et sur l'Internet, ça sera gratuit ?
Ah non, c'est une application numérique.
D'accord.
Qui va coûter quand même assez...
D'accord, qu'on pourra télécharger sur un smartphone. D'accord.
Exactement, smartphone ou autre.
Sur un continent où la littérature de jeunesse, l'écrit pour les jeunes, est quasiment inexistant finalement.
On a quand même des écrivains jeunesse qui produisent des livres de contes, pas mal de choses. C'est vrai qu'il n'y a pas de magazine, mais en termes de littérature jeunesse, si quand même, il y a de plus en plus d'écrivains africains qui produisent de la littérature pour les enfants.
Merci beaucoup Adja Mariam Maré-Sanogo d'avoir été en ligne avec nous. Nous revenons avec vous, Bénédicte Chocky-Milsin, sur la façon dont vous avez travaillé avec vos lycéens. Alors évidemment, en tant que professeur, vous avez un programme. Il n'y a pas que le plaisir, vous ne travaillez pas avec des magazines de lecture pour jeunes.
Alors, en fait, moi, j'appartiens à un courant de recherche qui met en valeur le sujet lecteur, c'est-à-dire l'idée que finalement, nous sommes des lecteurs entiers, nous réagissons avec notre raison, nos émotions, notre mémoire. Et donc, l'idée, c'est d'accueillir nos élèves, pas seulement avec leurs réactions rationnelles, mais aussi avec leurs émotions, leurs sentiments, leurs sensibilités, et de les aider un peu à se mettre à l'écoute de leur lecture, de prendre le temps. Il y a un temps pour tout, hein. Dans un cours de français, il peut y avoir un moment pour que chacun se mette à l'écoute de ce qu'il ressent en lisant un livre, même si ce livre, a priori, ne l'intéressait pas, et puis qu'il apprend à le découvrir. Et donc, c'est un petit peu comme ça que je travaille.
C'est-à-dire une espèce d'entrée en matière, finalement.
Oui, une entrée en matière, un carnet de lecture qui va permettre d'exprimer ses émotions, des débats, peut-être, entre les élèves, des diverses sollicitations subjectives qui vont permettre à l'élève de s'affirmer comme lecteur, de prendre la parole et de prendre confiance en lui dans cet univers de la culture.
Et comme lecteur au milieu de ses amis.
Voilà.
C'est ça.
Au milieu de ses pairs.
La discussion entre les enfants eux-mêmes, entre les adolescents eux-mêmes, est-ce que c'est une bonne porte d'entrée pour la lecture ?
Oui, c'est une très bonne porte d'entrée, je pense.
Mais en même temps, on voit bien que les clubs de lecture, ils accueillent les enfants qui sont déjà lecteurs. Non, souvent.
Oui, mais c'est une porte d'entrée, comme vous le dites. Et ce partage n'exclut pas l'action, enfin l'expérience solitaire aussi. C'est pas du tout incompatible.
Au contraire.
Au contraire, effectivement, parce que plus en effet il va y avoir de partage, plus il va y avoir de compétences à être un lecteur, et plus après la possibilité d'accéder à la solitude de ce temps de lecture. On est avec soi-même.
Le partage,
seulement.
C'est aussi beaucoup maintenant sur les réseaux sociaux.
Oui, bien sûr, cette sociabilité autour de la lecture, elle est très importante pour les jeunes lecteurs. Et le magazine là que vous évoquiez est vraiment très intéressant à ce titre, parce que ça génère une sociabilité, un échange, un plaisir du dialogue.
Ouais. Ça, alors, vous travaillez beaucoup avec des élèves ou avec des enfants, pour vous, Christine et Nico, qui, par définition, sont rétifs à la lecture. Je voudrais qu'on donne la parole à une auditrice qui nous appelle de Nouakchott, en Mauritanie. Bonjour, Bouna.
Alors, bonjour.
Un auditeur, pardon. Vous êtes maître d'école, hein, dans une école que vous avez créée à Nouakchott, c'est bien cela ?
Oui.
Oui. Et vous souhaitiez nous parler de l'appétit naturel de vos élèves pour la lecture.
Oui. Laissez-moi dire bonjour à Christine et à Bénédicte.
Bonjour. Bonjour.
Et laissez-moi vous passer le bonjour de mes élèves.
Vous êtes dans votre salle de classe.
Bonjour.
Bonjour. Non, bonjour et les filles.
Super, alors là, bravo Bouna. Combien d'élèves vous avez dans votre salle de classe là aujourd'hui, en direct, chez 7 milliards de voisins ?
Oui, je suis un piqué de la lecture, j'adore la littérature et j'ai essayé de faire transmettre cet amour-là à mes élèves. Mais je dois reconnaître qu'au début, ça a patiné. Je n'ai pas réussi à leur inculquer l'amour de la lecture tout de suite, parce que je ciblais surtout les élèves qui savaient lire déjà, qui maîtrisaient bien la lecture. Et je me suis cassé les dents.
Oui.
Mais de plus en plus maintenant, comme vient de dire l'une de vos invités, je fais passer la lecture à des élèves avec l'émotion. je leur montre des illustrations et je lis le texte, une histoire merveilleuse. Et je vois l'émerveillement dans les yeux des élèves. Ils ont les yeux qui pétillent. Et ils sont de plus en plus attachés maintenant à ces livres où d'abord ils identifient les images, ils savent de quoi ça parle. Et après maintenant, ils sont attachés à la lecture. Et c'est comme ça que je suis parvenu à faire aimer la lecture. Et le défi, c'est de trouver des choses à lire, des livres. Nous collaborons avec le représentant de Planète Jeune en Mauritanie, un certain Amad Tall, que je salue au passage.
Parce que vous manquez de livres, c'est ça. Vous n'avez pas de livres dans votre école.
Il n'y a pas de livres ici. Parfois, je fais une petite randonnée au Sénégal, j'amène quelques livres. Allô?
Oui, oui. Vous êtes toujours en direct, Bouna, oui.
Et j'ai essayé de créer une modeste bibliothèque et maintenant, elle ne peut plus satisfaire les élèves parce que les tout-petits, ils veulent lire tout le temps. Dès qu'ils ont fini un livre, ils me demandent un autre et maintenant que j'ai introduit la lecture, le défi, c'est de trouver les livres. Alors, il y a le représentant, comme je dis, de Planète Jeune qui m'aide beaucoup.
Quand vous dites, Bouna, les tout-petits, ils veulent lire tout le temps, vous parlez d'enfants qui ont quel âge?
Ils ont une dizaine d'années, 10, 11 ans, ils sont au CE1, CE2, jusqu'au CM1 maintenant.
Et ils lisent couramment des histoires en français?
Oui, ils peuvent lire des histoires en français, c'est des histoires qui ne sont pas très longues, hein. Il y a surtout des bandes dessinées. Des livres avec beaucoup d'illustrations. Et maintenant, nous organisons parfois des séances de lecture de poèmes.
Oui.
Un après-midi de vendredi, où on n'a pas cours.
Oui. Ah oui, le parfois, vendredi, donc c'est écriture de poèmes. Oui.
Pardon?
Oui, oui. Donc, chaque vendredi, c'est écriture de poèmes. Bah, c'est bien, vous allez nous appeler tous les vendredis, hein, Bouna.
Non, ils n'écrivent pas les poèmes, mais ils les lisent.
Oui, c'est ça, ils les lisent, ils les découvrent. Et donc, et ils
voilà,
apprennent à les aimer.
Oui, et je trouve que c'est de plus en plus contagieux. Si il y a un copain qui a lu la semaine passée, ça me donne envie, moi aussi, de lire. Finalement, ce n'est pas si désastreux que ça, quoi. On le corrige, on l'entraîne et il donne le courage à son ami qui ne sait pas très bien lire aussi à essayer.
Vous êtes en train de nous expliquer que, en fait, si on démarre tôt, les enfants, naturellement, ont cet appétit, ces yeux qui brillent à la découverte d'une belle histoire qu'ils peuvent découvrir eux-mêmes en lisant, quand ils maîtrisent évidemment la lecture. Votre problème, oui, ce sont maintenant l'accès aux livres, hein, finalement.
Tout à fait. Maintenant que les élèves savent plus ou moins lire, je n'arrive pas à avoir assez de livres.
Bon, alors évidemment, s'il y a des associations qui nous écoutent, hein, c'est le moment de lancer un appel, Bouna. Je crois que vous êtes extrêmement convaincant et on pourra donner vos coordonnées pour tous ceux qui pourraient vous aider à obtenir davantage de livres, puisque vos élèves lisent tellement vite que vous ne pouvez plus suffire. Vous ne pouvez plus fournir.
Absolument. Absolument, ce serait vraiment un miracle d'obtenir des livres ici.
Combien d'élèves vous avez dans votre classe, là, Bouna, en ce moment?
Dans mon école, j'ai 327 élèves.
Et là,
dans les classes, il y a entre 30, 35, 40 par classe.
Ouais. Eh bien, bravo.
Bravo, monsieur.
Oui, bravo, vraiment.
Bravo, merci beaucoup, Bouna. On dit au revoir à vos élèves.
Au revoir, bonne lecture.
Formidable, tout ce qu'on peut faire avec un téléphone portable et des livres.
Aussi.
Vos réactions peut-être, Bénédicte?
Oui, moi, la manière dont on peut actionner l'émotion, ça, c'est vraiment formidable. Moi, je pense aussi, vous voyez, par exemple, un petit conseil pratique. On lit un livre avant que l'enfant ne sache lire, pour inscrire justement l'enfant dans un devenir de lecteur. On lui lit un livre et puis... On n'est pas obligé d'avaler l'histoire, d'abord la mettre beaucoup de ce façon un peu théâtralisée comme ça, mais surtout s'arrêter et puis dire « mais qu'est-ce qui va arriver maintenant ?» Voilà, c'est-à-dire les solliciter dans cette posture de lecteur qui est de « je suis dans l'attente de ce qui va se passer après ». Alors, ça, parfois, ça se fait automatiquement chez certains, parfois pas du tout. Donc là, on éduque, si vous voulez, à cette posture de lecteur qui est la posture de l'attente.
C'est ça. À ton avis, est-ce qu'il va faire ça?
Voilà.
Donc, échafauder peut-être un scénario et puis ensuite découvrir ce qu'il y a dans le livre.
Exactement. Voilà. Et puis, ça, c'est déjà une petite pratique. Et moi, je pense vraiment aussi que, de manière comme ça, ce que j'appelle la transmission un peu masquée, pour ne pas faire de pédagogie, surtout en tant que parent. La transmission masquée, c'est celle où, ni vu ni connu, vous faites passer des mots. Parce que En effet, les adultes sont des passeurs de mots. Alors, par exemple, vous voyez, ne pas hésiter à donner le sens d'un mot, c'est même pas ça. C'est dans une suite de mots, on va en mettre un qui peut surprendre, disant « Ah ben peut-être dans le fond celui-là, oui vraiment il dit bien ». Vous voyez, comme ça, n'ayant l'air de rien. Hein. Mais moi, ce que je défends, on va y revenir peut-être un petit peu tout à l'heure, c'est que ce n'est pas simplement leur donner du lexique, c'est surtout les éduquer à la valeur évocatrice des mots. Je peux raconter par exemple que j'aime beaucoup leur donner un petit extrait d'un texte d'Éric de Lucas, qui est donc un romancier italien, et qui a raconté dans « Les poissons ne ferment pas les yeux », son roman. Son rapport aux mots, justement, ce rapport exceptionnel qu'il avait aux mots. Bon. Et notamment, la valeur qu'il a découverte au mot « nous », au petit pronom « nous ». Et ce n'était pas simplement « nous faisons »,« nous allons », etc. Tout d'un coup, il s'est dit que dans ce « nous », il y avait plusieurs personnes et plusieurs personnes qui faisaient ensemble. Et c'est le fait de faire ensemble, c'est la solidarité. Et du coup, ça a évoqué l'idée de solidarité. Voyez. Et quand je leur fais lire ça, ils me disent « Mais oui, mais enfin bon, il a employé nous comme ça », disent mes adolescents. Non, justement, c'est que ce n'est pas comme ça, c'est délibérément, il y a une intention et c'est la fonction évocatrice du mot qui compte.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous et je suis vraiment, votre auditeur a très, très bien témoigné de l'émerveillement aussi des enfants qui sont en attente d'histoire, qui sont émerveillés par la voix de leur enseignant, par son plaisir de lire et qui jouent sur les mots, hein, puisque j'ai le plaisir aussi moi, d'aller dans des classes en tant que formatrice, d'assister vraiment à cet émerveillement qui jaillit avec des mots nouveaux qu'on découvre, avec des couvertures qu'on découvre, des titres peut-être qui interrogent et toute cette attente, toute cette mise en scène qui est créée autour du conte.
Mais y compris chez des lycéens, parce que j'ai tenté de dire que c'est ça plus, que nous devons les enfants sont plus faciles, les petits sont plus faciles à séduire,
oui,
peut-être.
Mais non, c'est ça que, en fait, ce que nous devons travailler, c'est ce lien entre l'école maternelle, l'école primaire, le collège, le lycée, hein, et raviver ce plaisir qu'on a connu à l'école maternelle, le raviver, le réveiller tout au cours de la scolarité. Ça, je pense que c'est possible, oui, en créant des liens entre nos différents travaux.
Ferdinand nous poste ce message à Cotonou. Pour moi, la meilleure méthode est de faire asseoir tous les soirs autour d'une table ses enfants, chacun avec son livre de contes, dans une ambiance conviviale, joyeuse. La lecture se fait ainsi à tour de rôle et le tuteur peut expliquer ce qu'ils ne comprennent pas en s'accompagnant de gestes, par exemple.
Tout à fait.
C'est... Oui, c'est la mise en scène de la lecture. Hein. Ouais. Et ça passe effectivement par l'investissement à tous les niveaux de son être, émotionnel, sensoriel. Ouais.
Moustapha à Bamako dit « Moi, je suis favorable à l'idée d'offrir une récompense pour inciter les enfants à lire. Par exemple, leur promettre un vélo. »
Moi, je suis moins d'accord.
Il y a eu une époque dans les écoles aux États-Unis, on offrait une pizza. Et puis après, bon, bah, c'était pas très bon pour la santé.
Je trouve que c'est mettre sur le même plan des choses qui n'ont rien à voir. Oui. Précisément, ce qu'on essaie d'éduquer, c'est la position de la conscience de ce qu'on appelle l'inutile, qui est très utile, oui, et très que utile. Ce qui fait justement la dimension humaine, c'est d'avoir un désir d'inutile. Si effectivement c'est utilisé pour avoir une récompense, on n'est plus dans l'inutile. On a le vélo.
Et on tue le désir peut-être. Enfin, en tout cas, on l'encourage pas.
On donne la parole à un dernier auditeur. Nous arrivons bientôt au terme de cette émission. Amadou nous appelle de Conakry au 33 1 84 22 71 71. Bonjour Amadou.
Alors bonjour Emmanuel. Bonjour à tous les fidèles auditeurs.
Amadou, vous avez détesté lire autrefois, je crois.
Bien sûr. Quand j'étais enfant, j'ai détesté faire la lecture. Surtout le document qui ne contenait pas d'images, donc j'avais l'horreur de le lire.
Oui.
Parce que j'ai trouvé les écritures très très nombreuses sous mes yeux, donc cela était un facteur de découragement pour moi. Et je le pense encore, jusqu'à présent, cela était un facteur de découragement pour d'autres personnes.
Oui. Et alors, comment avez-vous été converti, si je puis dire?
En fait, pour un début, ça a été une obligation pour moi que je fasse la lecture. Quand je faisais la deuxième, je me rappelle, mon professeur qui s'appelait M. Guédou m'a donné un document, oui, à présenter. C'était un roman, Le Vieux Nègre et la Médaille. Donc, il était un défaut pour moi de résumer tout le document. Donc, c'est un document qui ne contenait pas d'image. Donc, j'avais l'obligation de le lire et faire le résumé du document, le présenter en classe.
Oui.
Donc, depuis lors, quand j'ai lisé le document, je me voyais dans même les textes.
Oui. Donc vous avez découvert, je suis désolée, la ligne téléphonique est très mauvaise, Amadou, vraiment toutes nos excuses, mais on n'y peut rien. Mais vous avez découvert la lecture par l'obligation de lire finalement et de produire quelque chose, une fiche de lecture, un compte-rendu dans votre classe à partir d'une lecture. Et aujourd'hui, je crois que vous êtes d'ailleurs responsable de la communication du Mondial du Livre à Conakry, puisque Conakry est la capitale mondiale du livre en 2017. Et donc, c'est quand même une belle réconciliation. Il nous reste vraiment 2 minutes, Bénédicte Chauqui-Milsan et Christine et Nico. J'aimerais que vous nous donniez vos derniers conseils, notamment pour ceux qui ont des adolescents. C'est quand même les plus rétifs, les plus difficiles à convaincre. Ils n'ont jamais lu, ils ont très peu lu, le minimum à l'école. Et les parents se disent aujourd'hui, c'est la dernière chance, qu'est-ce que je fais ?
Alors, s'il s'agit en effet d'adolescents, un levier fonctionne très bien. C'est justement leur faire ressentir les limites dans lesquelles ils se mettent eux-mêmes s'ils ne lisent pas. C'est-à-dire, effectivement, toujours la même pensée, toujours le même schéma, toujours les mêmes idées, toujours le même ressenti, la même expérience de vie. Et à partir du moment où on leur parle de l'expansion justement de l'être, voilà, pour dire court et rapidement, ils sont touchés. Et l'autre levier, c'est à ce moment-là, il y a plus de liberté pour toi. Voilà.
Alors, pour ma part, je dirais tout d'abord relâcher la pression, sortir de l'injonction, aller plutôt du côté du désir, de l'incitation, montrer à quel point soi-même on aime lire, et puis aussi aider chaque adolescent à se mettre en quête du livre qui, à ce moment précis, va lui apporter les réponses qu'il attend. Et je crois beaucoup à cette idée, et je l'ai vérifié hein, dans ma pratique. Il y a quelque part, pas très loin d'ici, même si les livres ne sont pas forcément nombreux, il y a moyen de trouver, même sur Internet, en s'aidant d'Internet d'ailleurs, des textes qui vont nous parler. Il y a beaucoup de livres d'ailleurs qu'on peut trouver sur Internet.
Oui.
Et c'est une lettre précieuse en libre service.
Il y a une rencontre que tu dois faire en ce moment avec ce que tu vis, un personnage
possible.
Dans un livre, dans une littérature.
Tout proche.
Merci à toutes les deux, Bénédicte Chauqui-Milsan. Vous publiez La lecture, ça ne sert à rien. Usage de la littérature au lycée et partout ailleurs, aux éditions PUF, prix Le Monde de la Recherche Universitaire. Et Christine et Nico, vous publiez J'aime pas lire, la méthode pour accompagner les enfants fâchés avec les mots. C'est publié chez Flammarion. Là, ça s'adresse vraiment aux parents.
Aux parents. Enfin, tous ceux qui sont en charge des enfants.
Vous restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission ?
Oui,
et
merci.
Tout de suite, je vous propose une nouvelle série de reportages. Merci évidemment à vous, hein, les voisins et les voisines, pour vos témoignages. Dans quelques instants, les ados commentent l'actu. C'est la nouvelle rubrique de 7 milliards de voisins jusqu'aux élections présidentielles françaises d'avril prochain.
T'entends bien ?
Oui, j'entends bien, oui.
Ok, tu m'entends ?
Lada ?
Et toi, tu prends le micro ?
Je raconte que je suis mal à l'aise à l'antenne.
Mais oh !
T'enregistres !
Chaque semaine, des jeunes de 12 à 18 ans réagissent à un thème de campagne, en relation bien sûr avec l'actualité. Que feraient-ils s'ils étaient président de la République ? Aujourd'hui, on parle sécurité, force de l'ordre. Il y a 3 semaines, vous le savez, Théo, un jeune homme de 22 ans, a accusé la police de l'avoir violé lors d'un contrôle à Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. Une affaire qui a secoué la France, qui a entraîné des violences dans plusieurs villes du pays. Alice Milot s'est rendue à Antony, dans les Hauts-de-Seine, en banlieue parisienne, pour demander à un groupe de jeunes d'une douzaine d'années ce qu'il pense de l'affaire Théo.
Personnellement, quand je croise un policier dans la rue, je vais me dire, lui, il est censé me protéger, il respecte bien les lois, il fait son travail, quoi. Quand tu regardes l'affaire Théo, t'es un peu choqué parce que tu te dis, mais ils ont fait quoi ces policiers, quoi, enfin...
Bah, je pense que la police, elle fait son travail et tout, mais elle pourrait arrêter de faire preuve de discrimination et même de racisme, des fois, comme on l'a vu avec Théo. Elle pourrait essayer d'être moins stricte avec des gens et plus avec d'autres. Il paraît qu'ils vont interroger plus facilement, par exemple, un jeune noir qui vient d'un quartier difficile qu'un blanc en costard-cravate. Alors que ça se trouve, le blanc, il est trafiquant de drogue et le noir, il essaye de chercher un boulot, tout honnêtement. C'est un peu désespérant si les forces de l'ordre, ils font n'importe quoi.
Ça donne pas du tout une bonne image des policiers parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de policiers qui sont pas du tout comme ça, qui essayent qu'une chose, c'est faire régner l'ordre et on sait que c'est difficile pour eux de faire régner l'ordre en ce moment. J'ai peur qu'après, sur tous les murs, il y ait marqué nique la police. J'ai pas envie que ça devienne une généralité, que de toute façon, les policiers sont tous bêtes et que... Et qu'ils sont tous racistes et que et voilà quoi. Faudrait agir avec plus de fermeté, plus les
les recadrer dès qu'ils font même une petite bêtise. Parce qu'après, s'ils commencent à faire une petite bêtise, bah, ils vont dévier, quoi. Faut vraiment leur expliquer ce qu'ils font, puis après leur laisser faire leur boulot.
Dans le recrutement de la police, j'aurais fait des tests, ben, j'aurais fait passer des épreuves aux policiers pour savoir si, après avoir juré serment et fidélité, ils n'iront pas aller dans la ville et tuer tous les Arabes qu'ils verront. Ben, je pense que pourrait y avoir une patrouille qui surveille certains grades de police.
Mais tu sais que la police des polices, ça existe déjà.
Oui, mais ils pourraient faire la police des polices des polices, parce que si la police des polices ne respecte pas le contrat, la police, ben, après, il y aura la police des polices des polices, etc., etc.
Voilà, la police des polices des polices des polices. C'est une proposition présidentielle d'un jeune collégien de 12 ans. On retrouvera cette petite rubrique, paroles d'enfants et d'adolescents, à quelques semaines de l'élection présidentielle en France. Et toujours au micro d'Alice Milot. Merci à toute l'équipe, Cécile Lavolo, Camille Nérand, Pierre Chaffanjon, Raphaël Lazizi, bien sûr, qui permet à cette émission d'exister du lundi au vendredi. On se retrouve lundi, justement, 7 milliards de voisins. Ce sera le rendez-vous des tchatcheuses, trois femmes journalistes de trois continent commente l'actualité comme chaque mois, en toute liberté ou impertinence, ce sera selon leur humeur. Et bien sûr, si vous êtes une femme journaliste dans votre pays, vous pouvez nous tout à fait nous appeler au 33 1 84 22 71 71. Dans quelques secondes, ce sera le journal sur RFI.